Jody était un four au mois d'août, avec des températures diurnes avoisinant les 35 degrés et montant souvent jusqu'à 38 ou 40. L'air conditionné dans ma maison de Mesa Lane fonctionnait bien, mais ne suffisait pas pour soutenir ce genre d'assaut répété. Parfois, pour peu qu'il tombe une petite averse fraîche, les nuits étaient un peu plus supportables, mais guère. Assis à mon bureau le matin du 27 août, je travaillais à la ville assassine quand la sonnette retentit. Je fronçais les sourcils. C'était un dimanche. J'avais entendu les carillons concurrents des différentes églises peu de temps avant, et la plupart des gens que je connaissais assistaient à l'office dans l'un ou l'autre des 4 ou 5 lieux de culte de la ville. J'ai enfilé un t-shirt et suis allé ouvrir la porte. L'entraîneur Borman était là avec Helen Doherty, ancienne doyenne des profs de FS et proviseur par intérim du lycée de Denholm pour l'année à venir. Sans grande surprise, en effet, Deke avait présenté sa démission en même temps que Mimi avait remis la sienne. L'entraîneur était engoncé dans un costume bleu foncé et portait autour de son cou de taureau une cravate criarde qui avait tout l'air de l'étrangler. Helen aussi était tirée à 4 épingles, en tailleur gris adouci à l'encolure par un frisli de dentelle. Tous deux arboraient un air solennel. Ma première pensée, aussi folle que péremptoire, fut « Ils savent. Je ne sais pas comment, mais ils savent qui je suis et d'où je viens. Ils sont venus me le dire. » Les lèvres de l'entraîneur Borman tremblaient et Helen avait les yeux pleins de larmes. Alors je compris. « C'est Mimi ?» L'entraîneur hocha la tête. « Deke m'a appelé. Je suis passé prendre Ellie, je l'emmène à l'église le dimanche, et nous avertissons tout le monde, en commençant par les gens qu'elle aimait le mieux. Je suis désolé de cette nouvelle. Et comment va Deke ?»«
Il semble tenir le choc, »
répondit Helen. Elle adressa un regard critique à l'entraîneur. « D'après ce qu'il en dit, en tout cas. »«
Oui, il tient bon. »
confirma l'entraîneur. Il est abattu, évidemment.
Évidemment, oui.
Il va la faire incinérer. Helen pinça les lèvres en signe de désapprobation. Il dit que c'était ce qu'elle voulait. Je réfléchis un instant. Nous pourrions organiser une soirée d'hommage au lycée à la rentrée. Qu'en pensez-vous? Ceux qui le souhaitent pourraient témoigner. Peut-être que nous pourrions monter un diaporama. Tout le monde doit avoir des tas de photos d'elle.
L'idée est formidable, approuva Helen. Pourriez-vous vous en charger, George?
Je serais heureux d'essayer.
Demandez à Miss Dunhill de vous aider.
Et avant que je puisse la soupçonner, elle aussi de jouer les entremetteuses, elle ajouta.
Je pense que de savoir que celle que Mimi a choisie personnellement pour la remplacer vous a aidé à organiser son hommage aidera nos jeunes à faire le deuil.
Cela aidera aussi Sadie.
Oui, bien sûr. Une nouvelle venue a besoin de toute la bienveillance possible en début d'année.
D'accord, je vais lui en parler.
Merci à tous les deux.
Ça va aller, vous?
Oui, bien sûr, assura vaillamment l'entraîneur, mais ses lèvres tremblaient encore. Je l'ai aimé pour ça. Ils sont repartis lentement vers sa voiture garée le long du trottoir. L'entraîneur Borman avait posé sa main sur le coude d'Helen. Je l'ai aimé pour ça aussi. J'ai refermé la porte. Je me suis assis sur le banc dans mon minuscule hall d'entrée et j'ai repensé à Mimi, me disant qu'elle serait malheureuse, qu'il lui manquerait quelque chose si je ne reprenais pas la pièce de théâtre des premières et terminales. Et si je ne signais pas pour enseigner à plein temps pendant au moins 1 an. Et si je n'assistais pas à sa fête de mariage? Mimi, qui pensait que l'attrape-cœur avait sa place dans la bibliothèque du lycée, et qui n'était pas contre une bonne séance de ça le samedi soir. Elle était de ces membres du corps enseignant dont les jeunes se souviennent longtemps après avoir obtenu leur diplôme et quitté le lycée, et à qui ils reviennent parfois rendre visite à l'âge adulte. De ces éducateurs qui surgissent parfois à un moment crucial dans la vie d'un lycéen en difficulté et changent les choses pour lui d'une façon décisive. Une femme vertueuse, Qui la trouvera ? Demande le proverbe. Car son prix est bien au-delà des rubis. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Il existe d'autres vêtements que ceux dont on habille les corps. Tout enseignant sait cela. Et il existe d'autres nourritures que celles que l'on place dans les bouches. Miss Mimi en avait nourri et vêtu beaucoup, moi y compris. Je suis resté longtemps là, assis sur le banc que j'avais acheté aux puces de Fort Worth, la tête baissée et le visage dans les mains. Je pensais à elle et j'étais très triste, mais mes yeux restaient secs. Je n'ai jamais eu la larme facile, comme on dit. Sadie accepta aussitôt de m'aider à organiser la soirée d'hommage de la rentrée. Nous y avons travaillé durant les deux dernières semaines de ce chaud mois d'août, sillonnant la ville en voiture pour composer notre liste d'intervenants. J'ai engagé Mike Coslow pour lire le proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse, et Al Stevens s'est porté volontaire pour raconter comment Mimi avait donné son nom à son prong burger, sa spécialité maison. Mimi ne m'avait jamais raconté cette histoire. Nous avons aussi rassemblé plus de 200 photos. Ma préférée était celle où Mimi et Deke dansaient le twist lors d'un bal du lycée. Mimi avait l'air de beaucoup s'amuser. Quant à Deke, il ressemblait à un homme à qui on aurait enfoncé un grand manche à balai dans le cul. Nous avons trié et classé les photos dans la bibliothèque du lycée, où la plaque sur le bureau indiquait désormais « Miss Dunhill » au lieu de « Miss Mimi ». Durant cette période, Sadie et moi ne nous sommes jamais embrassés, jamais pris les mains, jamais regardés dans les yeux plus longtemps que pour un coup d'œil en passant. Elle ne m'a pas parlé de l'échec de son mariage, ni des raisons qui l'avaient poussée à déménager de la Géorgie au Texas. Je ne lui ai pas parlé de mon roman, ni de mon passé en grande part fabriqué. Nous parlions de livres. Nous parlions de Kennedy, et de sa politique étrangère qu'elle trouvait excessivement chauvine. Nous discutions du mouvement des droits civiques naissant. Je lui racontais la planche en travers du ruisseau en contrebas de la station-service Humble Oil en Caroline du Nord. Elle m'a dit avoir vu en Géorgie des installations sanitaires semblables pour les gens de couleur, mais sa conviction était que les jours de la ségrégation raciale étaient comptés. Elle pensait que l'intégration scolaire se ferait, mais probablement pas avant le milieu des années 70. Je lui ai dit que selon moi, cela arriverait plus tôt, sous l'impulsion du nouveau président et de son jeune frère ministre de la Justice. Elle a reniflé avec mépris. « Vous avez plus de respect que moi pour cet Irlandais grimaçant. Dites-moi un peu, personne ne lui dit jamais d'aller se faire couper les cheveux ?» Nous ne sommes pas devenus amants, mais nous sommes devenus amis. Parfois, elle trébuchait sur des choses, y compris ses propres pieds qu'elle avait grands. Et à deux reprises, je l'ai rattrapée. Mais il n'y eut pas d'autre étreinte aussi mémorable que la première. Parfois, elle disait qu'il fallait absolument qu'elle aille fumer une cigarette. Et je l'accompagnais jusqu'à la zone fumeur des élèves située derrière l'atelier de travail du fer. « Je vais regretter de ne plus pouvoir me vautrer sur ce banc dans ma vieille paire de blue jeans », me dit-elle un jour. C'était moins d'une semaine avant la rentrée des classes. Il y a toujours un tel nuage de fumée en salle des profs. Un jour, tout cela va changer. Il sera interdit de fumer dans l'enceinte des lycées, pour les profs comme pour les élèves. Elle a souri. Un beau sourire, car ses lèvres étaient pulpeuses et sensuelles. Et je dois dire que sa vieille paire de blue jeans lui allait rudement bien. Elle avait de longues, très longues jambes, sans parler de tout ce joli monde au balcon. Une société sans tabac, les enfants noirs et blancs scolarisés ensemble en parfaite harmonie. Pas étonnant que vous écriviez un roman, vous avez une imagination fertile. Que voyez-vous dans votre boule de cristal, George? Des fusées sur la lune? Absolument. Cela prendra à peine un peu plus de temps que l'intégration. Qui vous a dit que j'écrivais un roman ? Miss Mimi. Et elle a écrasé sa cigarette dans l'un des bacs remplis de sable à l'usage de cendrier.
Elle m'a dit qu'il était bon.
Et en parlant de Miss Mimi, il me semble que nous devrions nous y remettre.
Je crois que nous y sommes presque avec les photos, pas vous ?
Si, si.
Et vous êtes sûr que passer cette chanson de West Side Story sur le diaporama ne fera pas trop ringard ?
Je trouvais Somewhere plus ringard que l'Iowa et le Nebraska réunis.
Mais d'après Ellen Doherty, ça avait été la chanson préférée de Mimi.
J'en ai informé Sadie, qui a exprimé son doute par un petit rire.
Je la connaissais pas très bien, mais ça ne lui ressemble pas.
Peut-être bien que c'était la chanson préférée de Ellie.
Maintenant que vous m'y faites penser, c'est plus que probable.
Dites, Sadie, ça vous dirait d'assister au match de football avec moi vendredi ?
Pour, disons, faire état de votre présence avant la rentrée de lundi ?
Ah oui, j'adorerais !
Puis elle s'interrompit, visiblement un peu embarrassée.
Tant que... Vous savez... Vous ne vous faites pas des idées.
Je ne suis pas prête à ça pour l'instant.
Et peut-être pas avant longtemps.
Moi non plus. Rassurez-vous. Elle pensait probablement à son ex. Moi, je pensais à Lee Oswald. Son passeport américain lui serait bientôt rendu. Ensuite, ce ne serait plus qu'une question de combine pour obtenir un visa de sortie du territoire soviétique pour son épouse.
Mais des copains peuvent assister ensemble à un match.
C'est vrai, ça se fait.
Et j'aime bien être en votre compagnie, George.
Parce que je suis plus grand.
Elle m'a mis un coup de poing facétieux dans le bras, style grande sœur complice.
Exact, cher ami. Vous êtes le genre d'homme que je ne suis pas obligé de regarder de haut.
Au match, pratiquement tout le monde nous guigna avec admiration et un soupçon de crainte, comme si nous étions les représentants d'une race légèrement différente d'humains. Je trouvais ça plutôt agréable. Et pour une fois, Sadie n'avait pas besoin d'arrondir les épaules pour se fondre dans le décor. Elle portait un polo Fierté de Lions sur sa paire de vieux blue jeans délavés. Avec ses cheveux blonds noués en queue de cheval, elle ressemblait à une lycéenne de terminale.
Une grande lycéenne.
Probablement celle occupant le poste de pivot dans l'équipe de basket féminin. Assis dans les gradins réservés aux professeurs, nous acclamâmes Jim Ladue lorsqu'il cribla la défense des ours d'Arnett d'une demi-douzaine de passes courtes, puis tira un coup de pied à 60 mètres qui mit la foule debout. À la mi-temps, le score affichait Denholm 31, Arnett 6. Alors que les joueurs quittaient le terrain et que l'orchestre du lycée les remplaçait pour défiler en agitant tuba et trombone, je proposai à Sadie d'aller prendre un hot dog et un coca.
Ce sera avec grand plaisir, mais je vous suggère que nous attendions le prochain arrêt de jeu, dans la troisième manche par exemple. En ce moment, la file d'attente doit au moins s'étirer jusqu'au parking. Et puis souvenez-vous, nous devons rugir comme des lions et pousser la clameur de Jim.
Je crois que vous y arriverez très bien toute seule.
Elle m'a souri en étreignant mon bras.
Non, j'ai besoin que vous m'aidiez.
Je suis nouvelle ici, ne l'oubliez pas.
À son contact, j'ai ressenti une chaleur et un petit frisson d'émotion que je n'associais pas à l'amitié. Et comment aurait-il pu en être autrement ? Elle avait les joues empourprées, les yeux brillants. Sous les lumières des projecteurs et ce ciel bleu verdâtre de crépuscule texan, elle était beaucoup plus que jolie. Sans ce qui arriva au cours de cette mi-temps, les choses entre nous auraient pu progresser plus vite qu'elles ne l'ont fait. La fanfare défilait autour du terrain, comme le font toutes les fanfares de lycée à la mi-temps, sans vraiment jouer à l'unisson, mais hurlant entre les notes un pot-pourri assez incompréhensible pour les non-initiés. Quand ils eurent terminé, les pom-pom girls gagnèrent au trot la ligne des 50 mètres, laissèrent tomber les pompons à leurs pieds et mirent les mains sur les hanches.
« Criez, elle !»
Nous avons fait ce qu'elles nous demandaient, et répondu de même lorsqu'elles nous incitèrent à crier « I », puis « O », puis « N » et enfin « S ».
Et ça donne « Lions !»
Tous les spectateurs sur les gradins des supporters à domicile étaient debout et applaudissaient.
« Et qui va gagner ?»« Les Lions !» Compte tenu du score à la mi-temps, il n'y avait pas beaucoup de doutes à ce sujet.
« Alors, on veut vous entendre rugir !»
Nous avons rugi à la manière traditionnelle, tournant d'abord la tête vers la gauche, puis vers la droite. Sadie s'en donna à cœur joie, les mains en porte-voix autour de la bouche, sa queue de cheval voltigeant d'une épaule à l'autre. Suivait la clameur de Jim. Au cours des 3 années précédentes, oui, notre Jim Ladue était passé quarterback dès son année de seconde, cette clameur avait été relativement simple. Les pom-pom girls lançaient quelque chose comme
« Nous voulons entendre votre fierté de Lions! Qui est notre meneur de jeu ?»
Et la foule des supporters locaux répondait en braillant
« Jim! Jim! Jim !»
Après quoi, nos pom-pom girls nous gratifiaient de quelques roues et roulades supplémentaires, puis quittaient le terrain au pas de course pour laisser entrer la fanfare de l'autre équipe qui défilait à son tour en jouant quelques airs. Mais cette année, peut-être en l'honneur de l'ultime saison de Jim, la clameur avait changé. Chaque fois que la foule criait « Jim !», les pom-pom girls répondaient par la première syllabe de son nom de famille, l'étirant comme une note de musique taquine. C'était nouveau, c'était pas compliqué, et la foule capta tout de suite. Sadie donnait de la voix avec les meilleurs d'entre eux jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive de mon mutisme. J'étais figé sur place, la bouche ouverte.
« Hey, George! Est-ce que ça va ?»
J'étais incapable de répondre. En fait, j'avais à peine entendu. Parce que pratiquement tout mon être était de retour à Lisbon Falls. Je venais de passer par le trou du terrier. Je venais juste de longer le côté du séchoir et de passer en me courbant sous la chaîne. Je m'étais préparé à rencontrer Carton Jaune, mais pas à être agressé par lui, ce qu'il fit. Sauf que ce n'était plus Carton Jaune, c'était déjà Carton Orange.
« Vous n'êtes pas censé être ici !» m'avait-il dit. « Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites ici ?»
Et quand j'avais voulu lui demander s'il avait essayé les AA pour son problème d'alcool, il m'avait dit
« George ?»
Maintenant, Sadie avait le ton inquiet.
« Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ?»
Les supporters se donnaient corps et âme au rituel de l'appel et de la réponse. Les pom-pom girls criaient « Jim !» Et la foule dans les gradins répondait
« Là ! Casse-toi, Jim, là !»
Voilà ce que Carton Jaune, devenu Carton Orange, mais pas encore Carton Noir qui s'était lui-même donné la mort, avait grondé à mon encontre. Et voilà ce que j'entendais aujourd'hui, tel le va-et-vient d'une balle inlassablement renvoyée entre les pom-pom girls et les 2500 supporters qui les regardaient.
« Jim, là ! Jim, là ! Jim, là !»
Sadie avait saisi mon bras et m'a secoué.
« Dites quelque chose, George Amberson ! Parlez, vous me faites peur !»
Je me suis tourné vers elle et forcé à sourire. Ça n'a pas été chose facile, croyez-moi.
« Je dois être en hypoglycémie, je suppose. Je vais vite nous chercher 2 coca. » Vous n'allez pas faire un malaise, vous êtes sûr? Je peux vous accompagner jusqu'au poste de secours si...
Ça va aller, je lui ai dit. Et puis, sans réfléchir à ce que je faisais, je lui ai posé un baiser sur le bout du nez. Un gamin a crié
« Bravo, monsieur A !»
Plutôt que de manifester de l'irritation, Sadie a frétillé du nez comme un petit lapin, puis elle a souri.
« Filez alors !» Avant de nuire à ma réputation. Et rapportez-moi un hot dog au chili, avec beaucoup de fromage.
Bien, ma'am.
Le passé s'harmonise avec lui-même. Ça, je l'avais déjà compris. Mais pourquoi ce refrain-là? Je l'ignorais, et cela m'inquiétait gravement. Sur l'allée en ciment menant à la buvette, le chant me parvenait, amplifié. Et j'eus envie de plaquer mes mains sur mes oreilles pour l'étouffer.
« Jim, là ! Jim, là ! Jim, là !»